Je vais donc commencer aujourd'hui par quelques statistiques. J'aime les statistiques surtout parce qu'on peut leur faire dire ce que l'on veut. Les statistiques sont donc très, très utiles lorsque vous essayez de prouver un point et que vous ne pouvez pas le prouver aussi bien que vous l'espérez. Alors, vous sortez les statistiques, tout le monde pense que vous êtes plus intelligent, ou mieux encore, vous allez sur Copilote. Vous lui demandez des statistiques, et alors l'IA vous donne des statistiques qui donnent l'impression que vous savez ce que vous faites, bien qu'elles soient sourcées, donc je sais qu'elles sont exactes. Mais on nous dit de surveiller la situation dans le monde. Nous devons le faire, cela fait partie de ce que signifie être un chrétien. Et en faisant cela, nous commençons à voir des choses. Et à bien des égards, les tendances des statistiques mondiales nous aident à comprendre et à apprécier l'imminence du retour de Dieu en Christ, la mise en place du royaume de Dieu. En observant les tendances de certains aspects, nous avons une meilleure idée de la rapidité avec laquelle le royaume arrivera. Vous pouvez regarder d'autres aspects de la société et c'est pourquoi le simple fait de regarder n'aide normalement pas dans un sens plus large. Il faut voir ces tendances dans le temps parce qu'il y a des tendances dans la société qui paraissent bonnes. Le taux de mortalité infantile diminue au fur et à mesure que la science progresse, la pauvreté recule, toutes ces statistiques dont on peut parler ou que l'on peut pointer du doigt et qui donnent une bonne image de la société. Mais il y en a d'autres qui montrent vraiment la décadence et le déclin de notre monde et le besoin du royaume de Dieu. Le mariage est l'un des domaines où cela est le plus criant. Je vais donc vous donner quelques aspects et quelques statistiques qui sont d'une certaine manière stupéfiants et qui montrent que Dieu a besoin de mettre en place quelque chose, son royaume, pour corriger ce qui est en train de s'effondrer. Il s'agit de l'institution du mariage. La première statistique est un chiffre américain. Aux États-Unis, sur 1000 personnes rencontrées, 6 sur 2 sont mariées. Et c'est une moyenne. Il n'y a pas un pied qui est marié à un coude. Mais 6,2 personnes sur 1000 sont mariées. Cela semble vraiment peu, n'est-ce pas? Avant, il y avait un peu plus de 19 ans, c'était l'apogée, il y avait 10 pour 1000. Nous sommes donc passés de 10 sur 1000 à un peu plus de 6 sur 1000. La situation est encore pire parce que les États-Unis s'en sortent mieux que beaucoup de pays, en particulier les pays israélites. Le Canada, par exemple, est à 4 points sur 1000. On retrouve des chiffres similaires dans presque tous les pays de l'Éther, 4, 4 et demi, tous inférieurs aux États-Unis, mais en baisse. Il y a donc moins de gens qui se marient. C'est une statistique. Ceux qui se marient, 2004 personnes sur 1000, soit 40 à 50%, selon la façon dont on calcule les chiffres, divorcent après s'être mariés. Il y a donc moins de gens qui se marient. Parmi eux, le taux de divorce augmente et se stabilise quelque peu. Mais lorsque près de la moitié des mariages se soldent par un divorce, c'est un taux que l'on n'a pas vraiment envie de battre. Et pour ne rien arranger, l'âge moyen ou la durée d'un mariage aux États-Unis est d'environ 8 ans. Donc, si vous êtes marié depuis plus de 8 ans, vous dépassez la moyenne. Et ce chiffre est bien pire qu'il n'y paraît, car s'il s'agit d'une moyenne de 8 ans, si quelqu'un est plus âgé, s'il est marié pour la vie, s'il est marié depuis 50, 60 ou 70 ans, cela va faire grimper ce chiffre par rapport au nombre de mariages qui commencent et s'arrêtent rapidement, plutôt un an, deux ou trois, mais disons tous les 8 ans. Chaque fois que cela se produit, en plus de tous les autres éléments liés à qui reçoit quoi, un divorce coûte environ 7 000 $. Quoi qu'il arrive, vous dépensez donc environ 7 000 $. Cependant, même si moins de gens se marient, plus de gens divorcent, le coût du divorce, 64% des hommes et 52% des femmes choisissent de se remarier. Ils recherchent quelque chose. Ils veulent quelque chose que Dieu a mis en eux pour faire, ce compagnonnage. Et parce que le deuxième mariage, ou le troisième ou le quatrième, ou quoi que ce soit d'autre, n'est toujours pas construit sur les fondations que nous allons détailler aujourd'hui, 60% de ces remariages se terminent par un autre divorce. C'est la société dans laquelle nous vivons qui rend les choses encore plus difficiles. Ensuite, à chaque fois, le pourcentage de personnes qui veulent se marier diminue, mais les taux de divorce augmentent, ce qui fait que le troisième mariage, le quatrième mariage, et ainsi de suite. Les gens abandonnent le concept du mariage. Au Canada, le pourcentage de la population qui choisit de vivre en union libre ou en situation de cohabitation est presque le même que celui qui choisit de se marier, soit environ 20% dans les deux cas. Ils vivent simplement ensemble. Ils ne se soucient pas du mariage. Aux États-Unis, une courte majorité, 53%, pense que la société se porte mieux si les couples qui veulent rester ensemble longtemps se marient, soit un peu plus de la moitié. La société continue de penser que si l'on veut rester ensemble longtemps et améliorer la société, les couples doivent se marier. 46%, qui ne sont donc pas si loin, pensent que cela ne fait pas de différence que les gens se marient ou non. On peut donc dire qu'il y a moitié-moitié. Il en résulte qu'environ 20% de la population des États-Unis ne pense pas que le mariage soit un élément important d'une vie réussie. Une personne sur cinq pense qu'elle n'en a pas besoin. Les gens y ont renoncé. La société moderne a sapé ce qui est une doctrine fondamentale d'une importance cruciale pour le mode de vie de Dieu. Passons au chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Nous nous sommes installés ici. Romains chapitre 12, commencez au verset 1. Verset 1. Encore une fois, rappelez-vous, la société a sapé cela. Le premier verset dit, « Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à présenter vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est votre service raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez découvrir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous ne pouvons pas laisser toutes les statistiques que je viens de vous lire influencer la façon dont vous et moi envisageons le mariage. Peu importe que vous ayez 5 ans ou 95 ans, le but de Dieu pour chacun d'entre nous est de nous marier un jour ou l'autre. Si les royaumes du Christ passent avant cela, son but ultime est que Christ épouse l'Église, que nous fassions partie de l'épouse du Christ. Le mariage est crucial. 2 Timothée, chapitre 3. Encore une fois, cela ne s'adresse pas seulement à ceux qui sont mariés, mais aussi à tous ceux qui espèrent l'être un jour. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. 2 Timothée 3, 1. Sachez que, dans les derniers jours, il y aura des temps périlleux. Nous pouvons considérer les temps actuels et, bien sûr, les temps à venir. Car les hommes s'attacheront à leur propre personne. C'est ce qui nous préoccupe à notre époque. Nous nous concentrons sur nous-mêmes. Convoiteurs, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissant à leurs parents, ingrats, impies, dépourvus d'affection naturelle. Allumez la télévision et vous verrez tout cela partout. Les briseurs de trêve ou ceux qui rompent les vœux, comme les vœux de mariage. Faux accusateurs, incontinents, impétueux, méprisant les gens de bien, traîtres, capricieux, hautains d'esprit, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant une apparence de piété, mais reniant sa puissance. Que dit le texte? Détournez-vous de cela. Nous ne pouvons pas laisser ce qui se passe dans le monde nous affecter et affecter notre vision chrétienne. C'est le cas. Nous n'avons pas le choix. C'est le problème de l'être humain. Tout ce que nous faisons nous affecte. C'est pourquoi nous revenons à l'office chaque sabbat et nous nous asseyons ici pour apprendre quelques doctrines de base. C'est pourquoi les jours saints reviennent chaque année, parce qu'ils nous aident à nous remettre sur la bonne voie. Comme aujourd'hui, il s'agit d'un sujet de base. Vous vous demandez si vous pouvez parler du mariage pendant 75 minutes. Vous seriez surpris de voir tout ce que la Bible contient. Nous devons rechercher la pensée de Dieu. Si vous vous êtes marié ou si vous voulez vous marier, vous ne réussirez pas votre mariage grâce à un truc psychologique, à un livre d'auto-assistance ou aux conseillers matrimoniaux du monde entier. Et vous ne trouverez pas d'exemple à la télévision. Je suis étonné de voir à quel point cela remonte à loin. Le dimanche, nous regardons un peu la télévision avec notre fils. Et pendant longtemps, nous avons regardé Lego Master. Si vous savez ce que c'est et que vous aimez les Lego, vous savez ce qu'est Lego Master. Puis nous avons terminé cette série et nous sommes passés à la télévision d'antan. À la télévision en noir et blanc, on se dit, si c'est en noir et blanc, c'est sûr. Je suis sûr que tout le monde ici a entendu parler de I Love Lucy, et on se dit que ce n'est pas grand-chose. Puis on commence à regarder I Love Lucy et on se dit qu'ils ne l'aiment pas, qu'ils se chamaillent et qu'ils sont ceci et cela, et on se dit, bon, cela fait un moment que les mauvais exemples de mariage existent. C'est drôle, c'est censé être amusant et une blague, mais il y a une raison pour laquelle c'est une blague. Il y a de la vérité dans les blagues. C'est ainsi que la société, même dans les années 50, 60 et 70, était, sans parler d'aujourd'hui, parce que, encore une fois, nous vivons dans ce monde. Nous ne pouvons pas en faire partie. Nous ne pouvons pas le laisser nous affecter. Alors, comment être prêt à vivre un mariage heureux et réussi? Comment pouvons-nous être prêts à vivre un mariage heureux et réussi? D'accord, commençons par le premier point. Numéro 1. Si vous êtes marié, mettez vos pieds en l'air. Vous n'avez pas à vous inquiéter de ce point. Numéro 1. Nous devons nous préparer au mariage. Si vous êtes déjà marié, c'est facile. Vous l'avez fait. Vous avez effectué le travail de préparation. Ou peut-être pas. Si vous ne l'avez pas fait, si vous vous êtes marié avant d'entrer dans l'église, il se peut que certains aspects de cette préparation soient critiques. Il y a beaucoup de choses à faire pour se préparer au mariage. Et si vous êtes à la fin de l'adolescence, au début de la vingtaine, vous commencez à y penser, d'accord? J'ai ma carrière, donc j'ai des revenus. Je peux donc me permettre d'avoir un mari ou une femme, ou j'ai des projets. Je suis en bonne santé, j'ai un logement. Tous ces projets physiques. En tant qu'être humain, en tant qu'adulte, nous devons mettre de l'ordre dans notre maison physique, si vous voulez, pour être prêt à faire le côté physique du mariage. Si vous êtes endetté, que vous dépensez sans compter et que vous n'avez plus d'argent, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas mûr. Je ne serai pas assez mûr pour me marier. Nous devons préparer cet aspect des choses. Votre budget, votre maison, votre travail, votre carrière, tout cela. Mais ce n'est pas la partie qui vous prépare à un vrai mariage, parce que tout le monde doit le faire. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais tout le monde devrait le faire. Ainsi, lorsqu'ils s'unissent, ils fusionnent les ménages, ils ne fusionnent pas le chaos. Malheureusement, c'est souvent ce qui se produit le plus souvent. Mais vous et moi, alors que nous nous préparons, alors que vous, les jeunes, vous vous préparez au mariage, Nous devons mettre de l'ordre dans nos maisons spirituelles. Allez à Proverbe 3. Proverbe, chapitre 3. Le mariage est une attente très élevée de la part de Dieu. Il ne s'agit pas d'aller à Las Vegas, de passer un week-end. Tout d'un coup, vous ressortez avec un bout de papier qui dit que vous êtes marié, c'est fait. C'est officiel. C'est ainsi que le gouvernement voit les choses. Vous pouvez entrer dans un centre, vous avez un témoin, vous allez voir un juge de paix, et pouf, vous êtes marié. Et presque aussi vite, les gens divorcent. Mais Dieu place le divorce dans une catégorie très différente. Il imagine quelque chose d'énorme et c'est que pour nous, chaque individu, mari, femme, époux, nous devons mettre nos affaires en ordre spirituellement pour être quelqu'un qui est l'autre moitié de l'équation d'un couple marié. Proverbe, chapitre 3, vous y êtes probablement. Verset 5. Verset 5 de Proverbe 3, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Comment mettre de l'ordre dans notre maison spirituelle? Nous nous confions à Dieu de tout notre cœur, pour le mariage, pour tout. Être prêt pour le mariage signifie que vous ne vous concentrez pas vraiment sur le fait d'être prêt pour le mariage. D'accord? Qu'entendez-vous par là? Être prêt pour le mariage signifie que vous vous concentrez sur votre propre santé spirituelle. Dans tous ces aspects. Vous priez, vous étudiez, vous jeûnez, vous apprenez, vous vivez le christianisme et vous servez. C'est en faisant tous les efforts nécessaires pour vivre et être chrétien que nous nous préparons. Et nous continuons ici. Confiez-vous au Seigneur de tout votre cœur et appuyez-vous sur votre propre intelligence, parce que nous faisons confiance à Dieu et à toutes vos voies, reconnaissez-le, tout ce que nous faisons, et alors il dirigera nos sentiers. Si nous faisons tout cela, Dieu nous dirigera. Dieu nous fournira un conjoint. En tant que personne qui ne s'est pas mariée avant d'avoir atteint la trentaine, je peux comprendre qu'une jeune personne dans l'église doive attendre ou, je connais des gens qui sont plus âgés, la trentaine, la quarantaine, qui ont attendu parce qu'ils ne voulaient pas diriger leurs propres pas. Vous vouliez la volonté de Dieu en la matière. Et puis, inévitablement, je l'ai vu si souvent au fil des ans, au moment où quelqu'un cesse de vouloir se marier, Dieu lui fournit quelqu'un qu'il peut épouser. Je ne compte plus le nombre de fois où ils entrent dans l'église, ce sont les gens, les jeunes, les filles sont plus concentrées sur le mariage que les garçons, mais cela arrive des deux côtés et leur objectif en tant que chrétien est de se marier, ce qui est bien dans un certain sens parce que, comme Dieu le dit, soyez féconds et multipliez, nous le lirons plus tard, mais lorsque c'est notre objectif chrétien, nous cessons de faire les choses qui nous préparent réellement à être un bon époux, un bon mari ou une bonne épouse. Inévitablement, quand quelqu'un dit, tu sais quoi? Je vais me servir de moi comme exemple. C'est ce qui m'est arrivé. J'avais une trentaine d'années et je me suis dit, vous savez, il me reste encore un peu de pensée mondaine. J'ai passé le cap de la vingtaine. Je ne suis pas marié. Je ne vais probablement pas me marier. Vous savez quoi? Je vais être eunuque pour l'amour du royaume, et je l'ai en quelque sorte accepté en me disant, non, je peux être au quartier général. J'ai un travail extraordinaire. C'est merveilleux. Et juste après cela, un certain monsieur qui venait de fêter son 50e anniversaire a montré la photo d'une certaine personne et je me suis dit que j'allais me rendre sur le site de la fête où elle se rendait, et comme j'avais accès au CRM à l'époque, je sais sur quel site elle se rendait. Mais comme on dit, le reste appartient à l'histoire. À ce moment-là, j'ai dit, non, cela va. Pour que Dieu nous dirige et nous prépare au mariage, nous devons nous concentrer sur l'obéissance et la confiance en lui. Allez à Ecclésiaste 12. Il s'agit d'un seul livre, l'Ecclésiaste, chapitre 12. On en arrive presque à un point où faire confiance à Dieu ou s'appuyer sur lui devient une habitude. C'est là que nous sommes bien placés. Nous savons que lorsque nous nous trouvons dans une situation, que nous avons un problème, nous pensons automatiquement dans notre esprit, « Oh, Dieu va régler cela. Je dois faire ma part, bien sûr, mais Dieu me donnera un moyen et je n'ai qu'à choisir si je fais la bonne chose. » Ecclésiaste 12, verset 13. Le verset 13 dit, « Écoutons la conclusion de toute l'affaire, craignons Dieu et gardons ses commandements. » C'est tout. Car c'est là tout le devoir de l'homme. La nouvelle version américaine traduit mieux cette phrase. Au lieu de « pour », c'est tout l'homme ou tout le devoir de l'homme, elle dit, car cela s'applique à tout le monde, de craindre Dieu et de garder ses commandements. Comment nous préparons-nous au mariage? Nous nous préparons spirituellement à être des chrétiens. Nous forgeons notre caractère. Nous devenons plus semblables au Christ, vous vous souvenez? Il va épouser quelqu'un. Il se retient pour l'instant. Il est patient. Si vous vous dites, « Oh, j'ai 30, 40 ou 50 ans et j'aimerais me marier », sachez que Christ a attendu des milliers d'années avant de se marier. Nous pouvons donc attendre, surtout si nous voulons que Dieu soit derrière nous. Revenons au Nouveau Testament, au chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens. Encore une fois, tout cela est très basique, mais si nous n'avons pas mis de l'ordre dans notre maison spirituelle, nous ne sommes pas prêts, nous ne nous préparons pas au mariage. Philippiens, chapitre 2 et verset 1. Verset 1 de Philippiens 2, « S'il y a donc quelque consolation en Christ, quelque consolation de l'amour, quelque communion de l'esprit, quelques entrailles et quelques miséricordes, comblez ma joie, afin que vous ayez les mêmes sentiments, un même amour, un même accord et une même pensée. Que rien ne se fasse par querelle ou par vaine gloire. Donc, rien de ce que nous devrions faire en tant que chrétiens, concept de base. Ce n'est pas par des querelles ou une vaine gloire que nous nous concentrons sur nous-mêmes. Mais dans la modestie de l'esprit, estimez les autres plus qu'eux-mêmes. Que chacun ne s'occupe pas de ses propres affaires, mais que chacun s'occupe des affaires d'autrui, qu'il s'intéresse aux autres et qu'il pense à eux. Que cet esprit soit en vous. L'esprit qui regarde les choses d'autrui, non pas dans un esprit de convoitise, mais en cherchant les besoins, en cherchant où l'on peut aider, servir et se sacrifier. Que cet esprit soit en vous, comme il était dans Christ Jésus. Si nous cultivons cet esprit qui s'intéresse aux autres, qui s'intéresse à leurs besoins, qui veut les aider, nous vivons activement un style de vie axé sur le service. Dans tout ce que nous faisons, nous pensons à prendre soin des autres, à les aider, à les servir et à travailler avec eux. Vous savez où vous en êtes pour être un bon conjoint? Oh, vous êtes allé si loin parce que, soudainement, vous avez maintenant deux personnes dans un ménage, que pour avoir un mariage efficace, vous pensez à cette autre personne. Nous reviendrons plus en détail sur le mariage. Mais encore une fois, si nous ne le faisons pas avant le mariage, pourquoi pensons-nous qu'un interrupteur se déclenchera une fois que nous serons mariés? Si vous êtes sur le point de vous marier, je suis désolé de vous dire que les premiers temps seront un peu difficiles parce que vous voulez mettre votre brosse à dents du côté gauche, et elle aussi. Et vous avez été mis. Plus vous êtes âgé, plus c'est difficile, parce que vous avez mis votre brosse à dents du côté gauche pendant 15 ans. Vous la laissez mettre sa brosse à dents à gauche et vous mettez la vôtre à droite, puis vous priez pour avoir une maison avec deux lavabos. Mais vous faites. Je dis cela en plaisantant, vous faites des petites choses, vous êtes deux vies qui se rencontrent, c'est un peu chaotique au début. On se fait une idée, les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Mais ce n'est pas cela qui va déclencher un interrupteur et nous faire penser, oh là là, je n'ai pas vraiment été un grand serviteur, mais maintenant que je suis marié, je dois aider et servir cette personne. Non, nous devons nous entraîner à vivre ce mode de vie avant que Dieu ne nous donne un conjoint, parce que c'est votre objectif. C'est l'objectif de tous ceux qui ne sont pas mariés. Rappelez-vous, nous voulons rechercher la volonté parfaite de Dieu. Colossiens 3. Quelques versets de base sur la vie chrétienne, mais des versets de base en ce sens qu'ils sont des éléments clés pour être une bonne moitié de l'autre moitié d'une relation. Colossiens 3 et verset 12. Le verset 12 dit, « Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de longanimité. » C'est le verset 12. Verset 13 de Colossiens 3. Supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns aux autres. Si quelqu'un a un différend avec quelqu'un, faites de même, comme Christ a pardonné. Et par-dessus tout cela, mettez la charité. Ou l'amour. Qui est le lien de la perfection. Que la paix de Dieu, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Apprenez donc à supporter et à pardonner. En tant que chrétien, nous devons le faire pour tout le monde. Mais lorsque vous côtoyez quelqu'un, essentiellement 24 heures sur 24, il y aura plus d'occasion de supporter et de pardonner, en particulier des deux côtés. Mais encore une fois, le commutateur ne se déclenchera pas le lendemain du jour où vous aurez dit « je le veux ». Nous devons vivre cette façon de penser, la pratiquer, nous y préparer activement. C'est pourquoi je dis. Je plaisante en disant que vous n'avez pas besoin de faire attention si vous êtes marié, mais vous le devez parce que ce sont tous des attributs de base de la vie chrétienne. Nous devons développer ce cœur compatissant et indulgent. Cela fait des kilomètres lorsqu'on est constamment en contact avec quelqu'un. C'est drôle, ma femme plaisantait avec moi avant que nous ne commencions. Elle m'a dit, « Tu ne peux pas laisser échapper trop de choses sur notre mariage. » Et quand cela sort, on se dit, « Ils doivent penser que notre mariage est dur. » Compatissant, dur, il faut être indulgent tout le temps. C'est surtout moi qui dois être compatissant et indulgent tout le temps. Je dis cela comme cela. J'ai aussi le micro, donc vous pouvez vérifier avec elle après. Non, je plaisante. Je ne sais pas si nous ne nous sommes jamais disputés ou battus, pour être honnête. Nous en avons peut-être eu une ou deux, mais non, nous nous entendons bien. Continuons ici, Matthieu 6. Je pense qu'elle était un peu inquiète que je raconte beaucoup d'histoires. C'est normal. Matthieu, chapitre 6 et verset 30. Matthieu 6, 30. C'est pourquoi. Verset 30. Si donc Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous habillera-t-il pas à plus forte raison, vous qui avez peu de foi? Ne vous préoccupez donc pas de savoir ce que nous mangerons, ce que nous boirons, ou de quoi nous serons vêtus, car les païens ont besoin de toutes ces choses et les recherchent. Car votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Bien sûr, Dieu le sait. Mais cherchez d'abord. Ne cherchez pas le mariage, ne cherchez aucun des autres aspects du christianisme dont nous pourrions parler. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses, y compris un conjoint, vous seront donnés par surcroît. Si nous nous concentrons sur ce mode de vie, en faisant ce qu'il faut, en cherchant le royaume, en construisant la justice de Dieu, il ajoute toutes les autres choses. Nous n'avons pas à nous en préoccuper. Nous devons faire un peu de travail. Par exemple, je vais utiliser un exemple, ce qui n'arrivera pas. Si je n'avais pas décidé de monter dans cet avion et de me rendre sur ce lieu de fête pour rencontrer celle qui allait devenir ma future femme, elle n'aurait pas été ma future femme. Elle n'aurait pas été ma future épouse. Si vous avez des occasions, jeunes hommes, femmes, de sortir et que vous ne les saisissez pas, vous vous assurez de ne pas avoir de future épouse. Vous mettez cela sur le dos des hommes plus que sur celui des autres parce que les filles sont parfois frustrées. Pourquoi devons-nous attendre que les hommes nous invitent à sortir avec eux? J'aime sortir avec quelqu'un. Est-ce que quelqu'un va m'inviter à sortir? Alors, les gars, c'est pour vous. Le moyen de s'assurer de ne jamais se marier est de ne pas sortir avec quelqu'un. Et quand tu sors avec quelqu'un, ce n'est pas pour te marier. Quoi? Comment cela marche? Vous sortez avec des gens pour apprendre ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, car chaque personne est différente. Et à un moment donné, il y aura cette personne avec qui cela clique et ensuite le processus grandira et se développera. Je me souviens. Désolé, chérie. Tu ne peux pas t'en empêcher. C'est un sermon sur le mariage. Ce premier site de fête, nous avons fermé les restaurants, complètement déséquilibrés dans nos rencontres cette première fois. Nous sommes allés à deux ou trois rendez-vous. On a eu un dîner dansant et il se trouve que je me suis assise à la même table. Mais lors de notre premier rendez-vous, nous sommes allés au restaurant. Nous avons bien mangé. On discutait. Nous ne pouvions pas nous arrêter de parler, de bavarder, et je savais que c'était génial. Et puis on était assis là, et à un moment, elle a dû aller aux toilettes, et elle est revenue en disant « Je crois qu'ils sont fermés ». Tout le reste du restaurant était fermé. Toutes les lumières étaient éteintes, ils avaient fermé la cuisine, tout était fermé. Ils nous ont gentiment laissé continuer à faire comme si le restaurant était ouvert, mais je ne sais pas quand ils ont fermé. Je n'ai jamais vérifié, je ne voulais pas le savoir, mais nous avons continué à parler. Mais encore une fois, si je n'avais pas fait cela, si je n'avais pas choisi d'aller à ce rendez-vous, d'aller à la fête ou à d'autres rendez-vous que j'ai eus au fil des ans dans l'église de Dieu pour apprendre à connaître ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas, je ne serais pas marié. Les hommes d'ici et du monde entier trouvent des moyens de sortir, d'utiliser Timub, de rencontrer des gens. C'est ainsi que l'on passe à l'étape suivante. Vous devez faire votre part, mais encore une fois, cherchez d'abord le royaume. Vous avez mis tous les éléments en place et vous êtes prêt à vous marier. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le mariage? Nous parlons depuis un bon moment maintenant, environ une demi-heure, et nous n'avons jamais vraiment défini ce que c'est, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Vous dites, eh bien, un mari et une femme se marient. On ne peut pas utiliser le terme pour définir le terme, alors laissons Dieu le faire. Genèse 2. Et c'est là que le monde se trompe. Il considère le mariage comme un arrangement juridique. Vous pouvez chercher. Je n'ai pas de définition, mais il s'agit d'un arrangement juridique entre deux parties, à notre époque, homme-femme, homme-homme, et tout le bazar dans lequel le monde s'est fourvoyé, pour vivre ensemble légalement dans le cadre d'un arrangement assorti d'avantages fiscaux et de toutes sortes d'autres choses qui y sont liées. Ils considèrent qu'il s'agit d'un accord juridique. Ils diront que c'est de l'amour. Ce n'est donc pas aussi noir ou blanc, mais dans le monde, c'est essentiellement un accord juridique, car si vous divorcez, vous apprenez très vite qu'il s'agissait d'un accord juridique, d'où les 7 000 $ nécessaires pour défaire cet accord juridique contraignant. Genèse 2, à partir du verset 14. Le nom du troisième fleuve est Idècle. qui va vers l'est de la Syrie, et le quatrième fleuve de l'Euphrate. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le mit dans le jardin pour qu'il le prépare et le garde. L'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger librement de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras à brève échéance. Au verset 18. Et le Seigneur Dieu dit, il a regardé cet homme tout seul dans ce beau jardin et il a réalisé que les hommes ne savent pas très bien s'occuper des jardins. Non, il l'a regardé et a dit, il n'est pas bon que cet homme soit seul. Je lui ferai une aide. C'est un choix de mots intéressant. Quand on regarde le grec, j'ai toujours, et peut-être que vous, c'est, vous le savez, mais j'ai toujours considéré le terme comme aide. Mais ce n'est pas ce que dit l'hébreu. Il s'agit d'une aide. Le mot signifie une aide, un assistant. Ce qu'il dit donc, c'est, je vais faire de lui un aide, un assistant, une rencontre ou un bien pour lui. Je vais donc lui donner quelqu'un qui est bon pour lui. Il s'agit d'une aide ou d'un assistant. Mais la partie rencontre est également intéressante. Je vais donc créer une aide. Et rencontrer pour lui est un autre mot hébreu qui signifie un front, l'opposé ou une contrepartie. Alors Dieu dit, je vais lui faire, laissez-moi paraphraser, un homologue, une aide, un assistant, car il n'est pas bon qu'il soit seul. Et c'est une de ces questions que l'on a envie de poser à Dieu dans le royaume, est-ce que tu avais déjà prévu cela? Tu vas déjà créer cette personne de confiance, n'est-ce pas? Ce n'était pas, vous l'avez vu et l'homme avait l'air pathétique dans le jardin, il se morfondait. Il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Mais oui, c'est une chose intéressante. Mais dès le départ, Dieu a créé cette aide. Matthieu chapitre 19. Revenons au Nouveau Testament. Nous sommes encore en train de chercher à définir ce qu'est le mariage, mais nous pouvons voir que Dieu l'a commencé, au moins avec la création d'une femme dans la Genèse. Matthieu, chapitre 19. Page ici, et verset 3. Matthieu 19, verset 3. Les pharisiens s'approchèrent de lui pour le tenter, en lui disant, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quelle cause? Ils essayaient juste de le piéger avec des mots. Il leur répondit, n'avez-vous pas lu que celui qui les a créés au commencement les a faits hommes et femmes? Revenant au récit que nous venons de lire, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est ainsi qu'ils sont devenus un couple. C'est pourquoi ils ne sont plus ni deux ni deux, mais une seule chair. Dieu ne permet donc pas la fornication. Nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Il nous renvoie donc au récit du jardin et dit, quand ils deviendront une seule chair. J'ai créé cette nouvelle situation. Donc, ou pas un, mais une seule chair. C'est pourquoi Dieu a uni. Que l'homme ne sépare pas. Prononcez ces mots exacts lors de la cérémonie du mariage. Dieu a uni Adam et Ève dans le cadre d'un mariage, parce qu'autrement, lorsqu'ils deviennent une seule chair, c'est-à-dire qu'ils ont des relations sexuelles et qu'ils sont mariés, ils se livrent à la fornication. Nous voyons donc qu'au tout début de la Bible, Dieu a créé l'homme et la femme et les a mariés. C'est ainsi qu'il a commencé. Il a fait d'eux une seule chair. Le mariage n'est donc pas une institution juridique, il l'est aussi à l'époque moderne, bien sûr, mais le mariage est une institution divine. Dieu l'a créé lorsqu'il a créé l'homme. Vous vous dites peut-être que, bien sûr, je le savais, mais laissez-vous convaincre un instant. Dieu a créé le mariage lorsqu'il a créé l'homme. C'est dire à quel point cela remonte à loin. C'est dire son importance. C'est dire à quel point le mariage est fondamental pour l'expérience humaine, et non pas pour une personne sur cinq qui dit qu'il n'est tout simplement plus nécessaire. C'était donc le deuxième point. Le mariage est une institution divine. Troisième point. Revenons à Matthieu 2, quelques chapitres en arrière. Je vais vous le donner pour que vous n'ayez pas de blanc dans vos notes. Le mariage est une alliance sacrée. C'est le troisième point. Ou pardon, Malachie, pas Matthieu. Malachie, chapitre 2. Retour à l'Ancien Testament. Malachie, chapitre 2. Dieu a créé le mariage. Il l'a fait dès le début. Et comment ce couple est-il lié? Une seule chair pour une seule. C'était, oui, nous l'avons vu. Mais à quel point est-ce contraignant? Malachie 2 et verset 11. Judas a agi avec perfidie, et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané la sainteté de l'Éternel qu'il aimait, et il a épousé la fille d'un étranger. D'accord. Nous allons voir un peu d'analogie ici, mais cela prouvera le point. L'Éternel retranchera l'homme qui fait ceci, le maître et le savant du tabernacle de Jacob, et celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. C'est ce que vous avez fait encore, en couvrant l'autel du Seigneur de larmes, de pleurs et de cris, au point qu'il n'a plus Dieu pour les offrandes. Les dieux les ignorent. Rappelez-vous, c'est le contexte. Israël s'est prostitué à une autre femme. Il ne tient pas compte de votre offrande, il la reçoit avec bienveillance, et au verset 13, au verset 14, il ne tient pas compte de votre offrande, il la reçoit avec bienveillance. Mais vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, que tu as traitée avec perfidie, et qui est pourtant accompagnée la femme de ton alliance. D'accord. C'est vraiment difficile à comprendre. C'est pourquoi je le lis rapidement. Permettez-moi donc de le lire à partir de la New American Standard. C'est beaucoup plus facile à lire, et cela nous permettra d'aborder un aspect de la question au fur et à mesure que nous progressons. Le verset 14 se lit comme suit, mais vous dites, pour quelle raison? Parce que le Seigneur a été témoin, comme il l'a été dans le jardin, comme il l'est lorsque des couples dans l'église se marient, que les mains sont imposées, qu'une prière est prononcée, entre toi et la femme de ta jeunesse, contre laquelle tu as agi avec perfidie, Israël, bien qu'elle soit accompagnée ta femme, par alliance. Par alliance. Dieu considère cette alliance comme sacrée. Lorsque deux personnes se marient, qu'elles s'agenouillent et que le ministre leur impose les mains, il s'agit d'une alliance contraignante que Dieu reconnaît. Le mariage est-il sérieux? Quelle est l'importance du mariage? À quel point le mariage est-il un élément essentiel de la vie d'un chrétien? Cela n'a pas d'importance. Si vous avez un conjoint dans l'église, l'autre non, vous avez les deux conjoints, Dieu considère que c'est si important que c'est une alliance contraignante. Il considère que c'est si important que si vous entrez dans l'église et que vous êtes marié, ce mariage est lié. Il dit, non, non, vous avez fait une alliance. Je n'étais peut-être pas totalement impliqué avec vous à l'époque, mais vous avez fait un pacte. Cela n'a pas d'importance si l'un des conjoints est dans l'église et l'autre non. S'ils sont heureux de demeurer, ils entrent dans l'église et Dieu dit, « Non, je pense que le mariage est si important. » Peu importe que votre conjoint ne soit pas dans l'église ou que vous décidiez tous les deux d'y entrer. Vous êtes appelés. Je maintiens cette alliance en place parce qu'elle est sacrée, et ce n'est pas parce que c'est entre deux personnes et que Dieu a choisi de le faire. C'est à cause de ce qu'elle représente. Le mariage représente, encore une fois, le mariage entre Christ et son Église. Le mariage ultime. Celui dont nous nous efforçons tous de faire partie et dont la version humaine nous prépare à faire partie de la version spirituelle. C'était le troisième point. Quatrièmement, le mariage, comme j'y fais allusion ici, a un but divin. Le mariage a un but divin. Et pas seulement ce que vous pensez, je parlais du mariage du Christ et de l'Église. Non, non. Il a un but plus grand. Éphésiens, chapitre 5. Nous allons examiner l'objectif le plus important, puis nous passerons à des objectifs un peu plus terre à terre, mais tout de même importants. Éphésiens, chapitre 5, verset 31. Éphésiens, chapitre 5, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Verset 32. C'est un grand mystère. Non, pas le mari et la femme. Ils le font depuis des milliers d'années. Mais je parle du Christ et de l'Église. C'est le mariage que nous imaginons en fin de compte. Chaque mari et chaque femme l'imaginent. Et c'est la norme que Dieu attend des maris et des femmes, comme nous le verrons au fur et à mesure que nous avançons. L'Église et lui. Revenons à l'Ecclésiaste. Nous reviendrons aux Éphésiens plus tard. L'Ecclésiaste, chapitre 4 de l'Ancien Testament, qui s'étend sur plusieurs couches du mariage, son but, le pourquoi, le quoi. Ecclésiaste, chapitre 4 et verset 9. Le verset 9 dit, « Deux valent mieux qu'un. Je vous laisse rattraper votre retard. » J'entends les pages se tourner. Ecclésiaste, chapitre 4 et verset 9. Deux valent mieux qu'un, car ils ont une bonne récompense pour leur travail. Travail d'équipe. Car s'il tombe, l'un relèvera son compagnon. L'un soutient, construit, renforce et aide, et si quelqu'un trébuche, il le relève. Mais malheur à celui qui est seul quand il tombe. C'est dur. C'est dur d'être seul. Si vous y assistez, pas n'importe qui ici, mais si vous êtes quelqu'un qui entend ceci ou qui me voit et que vous êtes dans une congrégation d'un seul, même si vous en avez deux, c'est mieux, mais si vous êtes dans une congrégation d'un seul, c'est difficile. Nous remercions Dieu pour la technologie qui permet à des personnes isolées d'être connectées, de sorte que vous me voyez et que vous pouvez contacter d'autres personnes et être en contact, mais c'est difficile. Quand on est seul, c'est difficile. Je poursuis ici. Puis au verset 11, si deux personnes couchent ensemble, elles ont de la chaleur, mais comment une personne seule peut-elle avoir chaud? C'est facile, c'est les maris, la couverture chauffante. Achetez une couverture chauffante à votre femme, et elle pourra se réchauffer toute seule. C'est le meilleur cadeau que j'ai jamais fait. À tel point que j'en ai acheté une deuxième, mais cela n'a rien à voir avec le verset, mais c'est la réponse à la question. Si un seul l'emporte sur lui, deux lui résisteront. Travail d'équipe, ensemble, et on pourrait même dire contre le diable. Deux personnes travaillant ensemble sont spirituellement plus fortes tant qu'elles se soulèvent l'une l'autre. Deux lui résisteront, et une triple corde ne se rompt pas de sitôt. Dès que vous introduisez un enfant dans le mélange, la dynamique change complètement. Genèse, chapitre 1. Une fois de plus, nous nous penchons sur le but et les objectifs divins, si l'on peut dire, du mariage. Chapitre 1 de la Genèse, ici même, retour au début. Verset 27 de la Genèse 1. Le verset 27 dit, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. » Qu'a-t-il fait alors? Il les a créés. Il les a mariés. Nous ne voyons pas ce récit, mais nous l'avons vu dans le Nouveau Testament, puis Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous. Faites des enfants, car vous n'êtes que deux. Il faut remplir la planète. Dans ce cas, l'urgence était plus sérieuse, mais aujourd'hui encore, soyez féconds et multipliez-vous. Rassasiez la terre, soumettez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les êtres vivants qui se meuvent sur la terre. Et voici que Dieu dit, je te donne cette planète. Voilà pour vous. Prenez-en soin. Remplissez-la. Soyez féconds et multipliez-vous. Que fait l'homme? Il le détruit, parce que c'est ce que nous faisons sans Dieu quand nous nous appuyons sur notre propre compréhension, sur n'importe quel sujet, y compris le mariage. Mais lorsque Dieu a créé ce premier couple marié, leur tâche était de sortir et de se multiplier, d'avoir des enfants, mais seulement quand le moment est venu, seulement quand le moment est venu. Cela nous amène au point suivant. Cinquièmement, les enfants améliorent mais ne fixent jamais un mariage pieux ou n'importe quel mariage. Les enfants renforcent un mariage pieux. Le plus beau cadeau qu'une personne puisse faire à un autre être humain, peu importe de quel être humain il s'agit, c'est un parent, un oncle, un grand-parent ou un oncle de substitution, un ami proche qui montre, enseigne vit le christianisme à quelqu'un qui grandit à la manière de Dieu. Il m'est difficile, en tant que personne âgée d'une vingtaine d'années, de comprendre ce que c'est que de connaître ce mode de vie depuis ma naissance. C'est en vous que nous vivons et nous ne devrions pas le faire. Cela ne veut pas dire que tout le monde y reste ou continue, mais cela fait tellement partie de vous, si vous êtes né dans ce mode de vie, que nous pouvons le considérer comme acquis et c'est là que nous devons être prudents, mais cela rend aussi les choses plus faciles d'une certaine manière, parce que vous ne défaites pas les choses qui ont besoin d'être défaites. J'ai dû sortir de toutes sortes de choses lorsque j'ai été appelé parce que je ne savais pas. L'un des plus grands cadeaux que l'on puisse faire est d'enseigner à quelqu'un le mode de vie de Dieu dès son plus jeune âge. Allez au chapitre 7 des 1 Corinthiens. Ce qui est bien. Peu importe qu'il s'agisse de votre propre enfant ou que vous ayez des proches ou que vous vous occupiez d'enfants, parce que nous avons tout ce qu'il faut. Lorsque vous enseignez le mode de vie de Dieu à de jeunes enfants, peu importe qu'ils portent des couches ou qu'ils terminent leurs études secondaires, mais concentrons-nous vraiment sur les plus jeunes, lorsqu'ils sont en âge d'être scolarisés ou préadolescents. Cela nous oblige à repenser le christianisme parce que, comme pour toute chose, lorsque vous enseignez quelque chose, vous devez vraiment vous assurer, d'accord, comment vais-je dire cela? Et le nombre de fois où ma femme et moi avons eu des conversations sur comment expliquer ce sujet très complexe à Eason. Cela vous oblige à y repenser et à revenir à la version la plus simple de ce que vous avez appris et compris. Cela vous oblige à revenir à l'essentiel. C'est pourquoi c'est bon pour les deux. Continuez ici, et vous y êtes probablement. 1 Corinthiens 7 et verset 12. Le verset 12 dit, « Pour le reste, je parle, moi, et non le Seigneur, si un frère a une femme qui ne croit pas, et qu'elle se plaise à demeurer avec lui, qu'il ne la répudie pas. » Non, rappelez-vous le verset que j'ai mentionné, le plaisir d'habiter. Verset 13. Et la femme qui a un mari incroyant, s'il se plaît à demeurer avec elle, qu'il ne la quitte pas. Il reste lié, souvenez-vous, parce que c'est une alliance qui a été créée. Car le mari infidèle est sanctifié par la femme, et la femme infidèle est sanctifiée par le mari, ailleurs vos enfants étaient impurs, mais maintenant ils sont saints. Le choix des mots ici est étonnant. Au verset 14, le mari incroyant est sanctifié. C'est la même chose pour la femme, dans les deux sens. Ce mot signifie rendre saint, sanctifié en grec. Donc, en obéissant à Dieu, ceux d'entre vous qui ont un conjoint qui n'est pas dans l'Église, vous êtes. C'est incroyable, parce que vous ne pouvez pas vous contenter de croire la Bible. S'il est heureux d'habiter avec vous, Dieu dit que vos actions sont un christianisme vivant d'obéissance à Dieu. Vous les rendez saints. C'est incroyable. C'est pourquoi il est important d'être cet exemple. Vous faites en sorte que le conjoint non converti qui est satisfait demeure. S'il attaque, c'est un autre bateau. Mais s'il est heureux de rester, vous le sanctifiez. Dieu sanctifie, il les rend saints. Ils ne sont pas encore saints. Combien de personnes avez-vous été dans l'église pendant un certain temps, qu'un conjoint arrive et que l'autre conjoint dise « Oh, oh là là !» Tant de choses ont changé en toi. Je vois des différences étonnantes. Qu'est-ce qui se passe dans cette église que vous fréquentiez? Et soudain, ils fréquentent l'église, ils sont curieux, ils obéissent et ils sont saints. Mais cela a commencé grâce à ce que vous avez fait. Et je sais que partout dans le monde, il y a des gens qui sont dans cette situation et ce n'est pas facile. Mais n'oubliez pas que vous aidez Dieu à les rendre saints. Et puis continuez. Il est dit, les enfants, eux, sont saints. Il ne s'agit pas de faire quoi que ce soit. C'est juste sacré. C'est ce que ce mot signifie. Sacré, mis à part, mais saint. C'est le même mot que pour les saints. Les enfants sont donc propres. Ils ont accès. La porte leur est ouverte. C'est une fenêtre qui n'est possible nulle part ailleurs. C'est pourquoi vous voyez aussi que c'est. Cela m'étonne toujours et, vous savez, ce n'est pas à 100% et parce que c'est le cas, chaque être humain a une agence morale libre. Mais il y a des familles qui viennent à l'église, même des enfants de tous âges. Souvent, un pourcentage ou un certain nombre d'entre eux se font baptiser parce que Dieu dit qu'ils sont purs. Ils ont cette possibilité. C'est le privilège de pouvoir élever un enfant qui n'est pas le sien. Dans toutes les congrégations, il y a des enfants, surtout ici au siège. Vous avez une aide ou une surveillance, où cette personne s'assoit à table avec quelqu'un. Nous avons l'occasion d'aider quelqu'un à comprendre comment vivre ce mode de vie avant même qu'il ne connaisse les mauvaises méthodes. C'est extraordinaire. Proverbe 22. Connaissez ce verset. C'est une source d'inspiration pour ceux qui ont des parents dont les enfants sont dans l'église ou qui sont plus âgés et ne fréquentent plus l'église, mais qui ont été élevés dans l'église. Encore une fois, chacun doit suivre le chemin que Dieu met devant lui, mieux vaut obéir, mieux vaut suivre cette voie. Mais Proverbe 22, verset 6, formez un enfant à la voie qu'il doit suivre. C'est de tout cela que nous parlons. Et quand il sera vieux, on ne dit pas quand il a 20 ans, on ne dit pas quand il a 30 ans. Oh, en tant que parent, vous travaillez si dur pour vous assurer que vos enfants veulent vivre ce mode de vie. Vous essayez de trouver un équilibre en leur donnant suffisamment de cordes pour qu'ils comprennent ce que cela signifie. Et, d'accord, ils choisissent de vivre de cette façon parce qu'on ne peut pas les forcer. Quand quelqu'un a 18 ans, on ne peut pas le forcer à obéir à Dieu. En tant que parent, vous travaillez très, très dur pour créer une situation telle qu'ils disent, vous savez quoi? Non, je vais choisir. C'est très bien. Ce n'est pas de cela que parle ce verset. Ce verset parle de ceux qui ne l'ont pas choisi parce qu'ils continuent en disant, et quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Alors, parents, soyez encouragés. Si vous avez un enfant qui a été élevé et qui a décidé, non, je vais suivre une voie différente. Si vous les éduquez, Croyez au verset. À un moment donné, les choses que maman et papa ont dites commenceront à avoir beaucoup plus de sens. Bon, revenons au Nouveau Testament. Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6, et nous commencerons au premier verset. Éphésiens 6, 1. Enfants, obéissez à vos parents et au Seigneur, car cela est juste, honorez votre père et votre mère, ce qui est le premier commandement avec promesse, afin que tout aille bien pour vous et que vous viviez longtemps sur la terre. Si vous obéissez à vos parents, vous vivrez longtemps, d'une part parce que c'est une promesse de Dieu, et d'autre part parce que vous prendrez moins de mauvaises décisions. Je pense que la plupart des mauvaises décisions que j'ai prises en grandissant n'étaient pas celles que mes parents auraient prises, m'auraient dit de prendre ou auraient su que je prenais. Cette promesse a donc de multiples facettes. Verset 4. Et vous, pères, ne provoquez pas la colère de vos enfants. Ne mettez pas vos enfants en colère, pères, mères aussi, mais élevez-les dans l'éducation et l'admonition du Seigneur. Les pères, cela s'adresse à vous, vous devez élever vos enfants. Aimer, prendre soin, être gentil, ce n'est pas le travail de la mère, c'est son travail aussi, mais ce n'est pas seulement le sien. Les pères doivent nourrir leurs enfants. Et les pères, nous sommes un peu plus chauds sous le col, nos boutons sont faciles à presser. Je suis un être humain plutôt calme. Je l'ai toujours été, plutôt décontracté, et dans mon approche de la plupart des choses, je suis étonné par les boutons qui peuvent me faire passer de 0 à 100, alors que je n'en avais aucune idée jusqu'à ce qu'il y ait un triple cordon. Et soudain, je me dis, oh là là, je me suis vite énervé. Et je me dis, père, ne provoquez pas la colère de vos enfants. Père, ne vous fâchez pas non plus, mais nourrissez, soignez et aimez parce que c'est merveilleux et éprouvant, c'est l'art d'être parent. Revenons au chapitre 3 de l'Épître aux Colossiens. Encore une fois, souvenez-vous que ce point est que les enfants renforcent un mariage pieux, Colossiens chapitre 3, quelques versets ici. Le verset 20 de Colossiens 3 dit, « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car c'est ce qui plaît au Seigneur. » Nous avons vu pourquoi, père, n'irritez pas vos enfants. Mot similaire, de peur qu'ils ne se découragent. Deux choses ici. Si vous avez tendance à vous mettre en colère et que vous battez vos enfants, ils feront l'une des deux choses suivantes. Ils vont se décourager, ils vont devenir cette souris d'église proverbiale où ils vont commencer à avoir la même réaction envers vous. Ils seront en colère et enflammés et se défendront. Combattre le feu par le feu. Vous ne pouvez faire ni l'un ni l'autre. C'est pourquoi, en tant que père, nous devons, comme il est dit, les éduquer. Cela ne veut pas dire que vous ne corrigez pas, que vous ne donnez pas de fessées ou que vous n'avez pas de normes. Non, non, cela signifie que vous travaillez avec vos enfants pour les construire comme vous voudriez que Dieu le fasse avec vous, dans n'importe quelle situation. Nous essayons d'imiter cela dans nos vies parce que, encore une fois, le dernier point de ce cinquième point, les enfants renforcent un mariage pieux. Un avertissement. Les enfants ne règlent pas les problèmes dans les mariages. C'est moins courant dans l'église, mais on voit souvent des gens qui ont des enfants pour masquer les problèmes de leur mariage, et cela ne marche pas une fois que vous avez des enfants et que vous réalisez que c'était une terrible décision parce qu'elle rend la vie plus difficile, plus compliquée, plus stressante, plus exigeante. Ils ne règlent pas les problèmes. S'il y a des problèmes dans un mariage, et nous allons en parler maintenant, il faut les régler avant de décider d'avoir des enfants. Concentrez-vous sur ces problèmes et corrigez-les, puis faites ce qui est prévu dans la partie 6, chaque partenaire, numéro 6 ici, a des rôles et des responsabilités. Deux passages du Nouveau Testament exposent presque tout cela. Nous nous contenterons donc de les examiner. Le chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens. Chaque partenaire a des rôles et des responsabilités. Contrairement à la perception populaire selon laquelle il n'y a pas de sexe ou pas de différence entre les sexes ou que les mariages sont 50-50e ou tout autre cliché du monde moderne, Dieu est très précis sur les rôles qu'il attend des maris et ce qu'il attend des femmes. Éphésiens 5, commencez au verset 17. Verset 17, c'est pourquoi vous n'êtes pas dépourvus de sagesse, mais vous comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est ainsi que les choses se sont mises en place. C'est ainsi que les choses se mettent en place. Nous devons apprendre et comprendre quelle est la volonté de Dieu. Descendez au verset 20. Le verset 20 est ainsi libellé, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu et au Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres. C'est intéressant, parce que le verset suivant, nous terminerons le verset ici, l'un à l'autre dans la crainte de Dieu. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Les femmes, à moins que nous n'ayons sauté dans un contexte complètement différent. Femmes, soumettez-vous à vos maris comme au Seigneur. Cela signifie-t-il que nous venons de lire au verset 21 que les maris et les femmes sont égaux et qu'ils ont tous deux la position de soumission? Cette expression? Non, bien sûr. Poursuivez, cela va se mettre en place, mais cela veut dire se soumettre, s'assujettir, se soucier d'eux, penser à, se concentrer sur l'un et l'autre. Parce que si vous continuez à lire le contexte ci-dessus, cela ne s'applique pas seulement aux maris et aux femmes. Il s'applique à chacun d'entre nous, et c'est la raison pour laquelle les disputes se produisaient, parce qu'ils disaient, voilà ce que vous devriez faire avec les autres êtres humains, mais à quel point avec votre mari et votre femme? Pensez à d'autres personnes. Rappelez-vous, c'est la raison pour laquelle un bon mariage repose en grande partie sur ce que nous avons fait avant de nous marier. Se concentrer sur les autres. Aider les autres. Verset 22. Femmes, encore une fois, soumettez-vous à vos maris comme au Seigneur. Les femmes doivent donc considérer leur mari comme leur Christ. C'est une barre assez haute. Selon la situation, c'est difficile. Mais continuez, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Encore une fois, l'analogie n'est pas du tout atténuée, et il est le sauveur du corps. Par conséquent, comme le sujet, comme l'Église est soumise au Christ, que les femmes soient soumises à leur propre mari en toutes choses. Ce n'est pas un sentiment populaire dans la société d'aujourd'hui, que les femmes soient soumises à leur mari. Personne ne l'a jamais fait. C'est la façon dont la société vous affecte, vous tous, et moi aussi, un peu quand je le dis, les poils de mon cou se dressent un peu comme, est-ce que je peux dire cela? Parce que nous sommes tellement habitués à ce que la société nous a conditionnés à penser et à brouiller les différences entre les hommes et les femmes. Mais les gars, vos épouses ne peuvent pas vous regarder comme cela si vous ne vous comportez pas comme Christ. Si vous ne dirigez pas, vous ne pouvez pas faire en sorte que quelqu'un s'assujettisse ou se soumette à quelqu'un d'autre si ce dernier ne dirige pas. La nature a horreur du vide. Sans leadership, la femme est obligée de s'avancer et de diriger, ce qui n'est pas la vocation de la femme telle que Dieu l'a conçue. Elles peuvent être des leaders et être puissantes. Débora, regardez la Bible. Mais dans la relation conjugale, ce n'est pas ainsi que Dieu a créé les maris et les femmes. Mais si le mari ne dirige pas, il l'oblige à le faire. Il force l'Église à contrôler Christ, et c'est pourquoi il y a tant de groupes dissidents parce que l'Église pense que c'est elle qui dirige, et non l'inverse. Le verset 25 continue ici, Marie, aimez vos femmes. De même que Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Alors mesdames, oui, c'est difficile, vous pensez, ok, dans cette société moderne, le monde féministe dans lequel nous avons grandi, il est difficile d'avaler que je dois être soumise à mon mari. Alors oui, ce n'est pas facile, cela dépend du mari, mais vous avez en quelque sorte le meilleur côté du bâton, je le dis simplement, parce que votre mari doit se comporter comme Jésus-Christ avec vous. Il doit être prêt à mourir pour vous. Marie, pouvez-vous dire que c'est ce que vous feriez? Seriez-vous prêt, si la situation se présentait, à mourir pour votre épouse? Vous mourriez pour votre femme? C'est un mariage pieux. Rappelez-vous, l'Église, Christ, c'est la norme qui est attendue. C'est ce qui se passe lorsqu'un mariage est célébré selon la volonté de Dieu. Verset 26, afin de sanctifier Christ et de le purifier par le lavage d'eau au moyen de la parole, pour se présenter à lui-même comme une église glorieuse. Rappelez-vous donc, les femmes, que vous êtes l'église et que les maris sont Christ dans cet exemple, dans un mouvement de va-et-vient. Cela vous en dit long sur la façon dont chaque personne devrait être dans cette relation, se présenter à lui-même, une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Elle doit être sainte et sans défaut. Alors, mesdames, vous vous dites, oh là là, encore de la crème pour la peau. Non. Sans défaut de caractère, sans tache de caractère, avec tous les aspects de votre caractère, parce que c'est ce qui importe à l'Église. Bien sûr, nous voulons être bien habillés, avoir une belle apparence et toutes ces choses qui vont avec, mais c'est notre caractère qui compte. C'est pourquoi être prêt pour le mariage signifie que l'on se prépare et que l'on vit ce mode de vie depuis longtemps. D'accord. Verset 28. L'homme aime sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit. Nous continuons ici, comme le Seigneur aime l'Église. Souvenez-vous qu'il ne s'agit en aucun cas d'adoucir la comparaison entre les femmes et l'Église, et entre les maris et Christ, car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. Et eux aussi ne feront qu'une seule chair. Rappelez-vous, nous avons déjà lu cela. Voici maintenant le contexte, la préparation de la suite. C'est un grand mystère, mais je parle de Christ dans l'Église. Verset 33, néanmoins. D'accord, je résume ici. Que chacun de vous, en particulier, aime sa femme comme lui-même, et que la femme veille à respecter son mari. Vous savez ce que c'est? Rappelez-vous, nous avons lu plus tôt que nous devons craindre Dieu et que les maris établissent cette relation de mariage. Nous devrions regarder l'Église, nous devrions regarder Christ et la crainte de Dieu. Cela dit, femme, vous devez craindre votre mari, langue grecque, ce qui signifie une crainte comme la crainte de Dieu. Ce n'est pas qu'il vous frappe et que vous le craigniez. C'est mauvais. Mais il s'agit de la crainte, de la révérence, de l'admiration de la personne qui vous regarde et qui est prête à mourir pour vous. Ce sont là des normes élevées. Il ne s'agit pas seulement d'un contrat légal contraignant que Dieu attend des couples dans son mode de vie. Non, un mariage est bien plus important. D'accord, regardons l'autre passage dans 1 Pierre 3, 1 Pierre chapitre 3. Commençons par le premier verset, 1 Pierre 3, 1. De même, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que, si quelqu'un n'obéit pas à la parole, il puisse, sans la parole, C'est un peu gênant. Donc en gros, ceux qui sont en dehors de l'Église, s'ils n'ont pas la parole, donc, les femmes, soyez soumises à vos maris, de sorte que si quelqu'un qui n'est pas dans l'Église vous voit, il sera un par votre comportement ou votre conversation ou votre conduite des femmes. Ainsi, votre comportement en tant qu'épouse dans le mode de vie de Dieu crée un exemple de la façon dont les épouses devraient agir pour ceux qui ne vivent pas ce mode de vie, parce qu'ils sont étonnés que vous puissiez être soumise à votre mari et que vous soyez heureuse. Lorsqu'ils voient cela, leur esprit est ébranlé. Qu'est-ce que c'est? Et puis cela renvoie au Dieu qui a créé l'institution. Verset 2. Lorsqu'ils verront votre conduite ou votre comportement empreint de crainte, qu'ils ne s'attachent pas à la parure extérieure, à l'ornementation des cheveux, au port de l'or et à la mise en valeur des vêtements. Nous devons être beaux, nous devons bien nous habiller. Mais ce n'est pas l'essentiel. Mais que ce soit l'homme caché du cœur, qui n'est pas corruptible, la parure de l'esprit doux et tranquille. Ce qui est, aux yeux de Dieu, d'un grand prix. Il s'agit davantage d'attributs de caractère. En effet, après ce temps de mandarine, les femmes qui se sont confiées en Dieu se sont parées, elles aussi, en se soumettant à leur mari. Même si Sarah a obéi à Abraham en l'appelant Seigneur, je me souviens que je ne cesse de vous raconter des histoires sur mon mariage. Elle m'appelle Seigneur à la maison. Elle ne m'appelle pas Seigneur. C'est le rire le plus gêné que j'ai jamais entendu en chair. Et de poursuivre, dont vous êtes les filles, pourvu que vous fassiez bien et que vous ne soyez pas effrayées par quelque étonnement. Verset 7. De même, vous, mari, demeurez avec elle selon la connaissance, honorant la femme comme le vase le plus faible, et étant aussi héritiers ensemble. Rappelez-vous, les homologues sont héritiers ensemble de la grâce de la vie. Et qu'est-ce qu'un bon mariage fait? C'est étonnant. Dieu l'a glissé dans le texte. Si vous avez un bon mariage, vos prières ne seront pas entravées. Si vous remplissez tous les deux le rôle que Dieu vous a assigné, moi, ma femme, les maris et les femmes, les prières ne seront pas entravées. D'accord. Numéro 7. Septièmement, les mariages témoignent d'un véritable amour à des moments très précis. Les mariages témoignent d'un véritable amour à des moments très précis. Et voici la clé. Allez au chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux. Hébreux, chapitre 13. Et juste un verset ici, le verset 16, Hébreux 13, 16. Mais n'oubliez pas de faire le bien et de communiquer, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Pour que les mariages fonctionnent, ce verset est aussi fondamental que n'importe quel autre verset que je pourrais citer dans toute la Bible. Les couples qui communiquent, surmontent les problèmes, les situations, les difficultés, les triomphes, tous les aspects, lorsque l'un est capable de dire à l'autre les choses qu'il a besoin d'entendre. Je vais utiliser l'exemple, le conseil que j'ai reçu au début de mon mariage de la part de Monsieur Pack. Je me souviens que je me trouvais devant l'ancien bâtiment. Ma femme et moi venions de nous marier et il nous a dit à tous les deux, individuellement, nous nous tenions là. Il a dit, vous aiderez votre mari si vous lui dites. Ou il me l'a dit en premier, vous aiderez votre femme si vous lui dites les choses qu'elle a besoin d'entendre, et non pas ce qu'elle veut entendre. Ce qu'elle a besoin d'entendre, avec amour et gentillesse. Et cela a été expliqué. Puis il s'est tourné vers elle et lui a dit la même chose. Il lui a dit, ce sera plus difficile pour vous parce que vous essayez de dire cela à votre mari. Et elle a écouté. Et je ne dis pas cela avec humour ou en plaisantant. Les premières fois, je me souviens qu'elle était en larmes. Elle disait, je voulais dire quelque chose et c'est difficile pour une femme de le faire. C'est à nous, les maris, de faire en sorte de leur faciliter la tâche. Et les maris, il est important que vous disiez les choses qu'elles ont besoin d'entendre. Si vous, mari et femme, cela s'adresse vraiment à ceux qui sont mariés et qui sont tous deux dans l'Église. Si vous voulez rester dans la voie de Dieu, si vous voulez voir cette personne en face de vous avec qui vous vivez et avec qui vous partagez des sentiments, des pensées et des choses, réussissez, dites-lui les choses qu'elle a besoin d'entendre d'une manière aimante, bienveillante et gentille. Peu importe ce que c'est, parce que ce qui se passe, c'est que cela garantit que vous restez tous les deux sur le bon chemin. Vous marchez tous les deux sur cette voie chrétienne comme vous le devriez, parce que si vous vous contentez de calmer votre conjoint, s'il est offensé par quelque chose ou, peu importe ce que c'est, et que vous le calmez, vous ne l'aidez pas. Vous n'êtes pas des maris qui ressemblent à Christ. Femme, vous n'honorez pas vos maris si vous ne les aidez pas, si vous ne les soutenez pas. Rappelez-vous que Dieu vous a créé pour être une aide, un soutien. C'est ainsi que vous montrez un véritable amour lorsque vous communiquez et dites les choses qui doivent être dites, parce que le caractère n'est pas créé comme un test lorsque c'est facile. Si c'est facile et que vous passez une journée heureuse, c'est un dimanche merveilleux, quel que soit le sujet sur lequel vous travaillez. Non, non. C'est difficile. Vous vous mettez à l'épreuve l'un l'autre lorsqu'il y a une dispute, ou lorsqu'il faut corriger, absorber ou exhorter, ou lorsqu'il faut dire ce qu'il faut dire et ce qu'il faut entendre. Bien sûr, vous recommencez. Je le répète encore et encore parce que, Marie, nous devons faire attention parce qu'il est facile pour nous de nous mettre en colère. Et puis, les femmes, c'est plus difficile d'écouter, n'est-ce pas? Et les maris, il est facile pour nous d'être fiers lorsque notre épouse fait remarquer quelque chose si nous n'avons pas créé un environnement où elle peut le faire. Femme, ne devenez pas trop douée pour cela, car vos maris ne voudront pas l'entendre, mais faites-le avec amour et vous vous renforcerez mutuellement. Vous serez plus efficace. Je ne serai pas ici aujourd'hui à faire ce sermon sans ce conseil, parce que vous pouvez vous édifier mutuellement d'une manière que vous ne pouvez pas faire seul. C'est impossible, mais seulement si vous dites ce qui doit être dit. Passons à Colossiens 3. Commençons à conclure ici. Colossiens, chapitre 3 et verset 18. Le verset 18 dit, « Femme, soumettez-vous à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Et vous, maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. » C'est une traduction amusante. Et cela signifie qu'il ne faut pas les traiter durement. Donc les maris et les membres et l'amour, c'est comme avec les enfants, vous ne voulez pas les construire à la colère. Ne les traitez pas durement. D'accord. Dernier point. Les mariages heureux et réussis ont des relations sexuelles, c'est aussi simple que cela. Dieu l'a créé dans un but précis. Allez au chapitre 7 des 1 Corinthiens. Premier chapitre des Corinthiens. Communication, discussion, planification, travail. Cela fait partie intégrante de la réussite d'un mariage. Rappelez-vous, ils sont devenus une seule chair. 1 Corinthiens, chapitre 7 et verset 1. Le premier verset dit, « En ce qui concerne les choses que tu m'as écrites, il est bon que l'homme ne touche pas à la femme. Mais, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, qu'il se marie. Que le mari rende à sa femme toute sa bienveillance. » La version la plus hilarante d'un mot que les auteurs de la King James ont essayé de minimiser dans la Bible, faire preuve de bienveillance. C'est en fait un euphémisme, ce qui est assez drôle, un euphémisme qui signifie devoir conjugal. C'est un euphémisme qui signifie devoir conjugal. On peut le savoir, mais la définition réelle est fascinante, mais terminons le verset avant que je ne finisse. Et de même, la femme et le mari. Les deux sont donc responsables de faire cela dans le mariage. C'est important. C'est essentiel. Le mot signifie en fait bonté. C'est un euphémisme pour le sexe dans le mariage, mais la gentillesse? Encore une fois, les gars, cela met en perspective la façon dont notre relation devrait être à l'intérieur de la chambre à coucher. Continuez au verset 4. La femme n'a pas le pouvoir de son corps, mais le mari, et de même le mari n'a pas le pouvoir de son corps, mais la femme. En fait, chacun de nous possède le corps de l'autre. Ne vous fraudez pas les uns les autres, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vous livrer au jeûne et à la prière, et de vous réunir à nouveau, afin que Satan ne vous tente pas par votre constance, ou votre incontinence. Vous savez ce que cela signifie si vous ne pouvez pas contrôler votre vessie? L'incontinence de la vessie signifie que vous ne pouvez pas vous contrôler. Dans ce cas, cela signifie que si vous ne vous unissez pas dans le mariage, vous ouvrez la porte à l'adultère parce que vous ne le faites pas régulièrement et que vous ne suivez pas les commandements de Dieu. Hébreux 13. Hébreux chapitre 13 et nous commencerons au verset 1. Hébreux 13 et verset 1. Que l'amour fraternel continue. N'oubliez pas de recevoir des étrangers, car certains ont ainsi reçu des anges sans le savoir. Souvenez-vous de ceux qui sont dans les liens, comme étant liés avec eux, et de ceux qui souffrent l'adversité, comme étant vous-même dans le corps. Souvenez-vous donc du corps des uns et des autres dans l'Église de Dieu et le corps du Christ. Verset 4. Le mariage est honorable en tous, et le lit sans souillure. Mais les impudiques et les adultères, Dieu les jugera. Ce que cela signifie, c'est que le lit n'est pas souillé. Cela signifie également que ce qui se passe dans la chambre à coucher reste dans la chambre à coucher. Dans un mariage pieux, il n'y a pas de discussion dans les vestiaires. Cela n'existe pas. C'est entre le mari et la femme. Cela signifie que les femmes n'en parlent pas. Les hommes n'en parlent pas. C'est entre le mari et la femme. C'est un lien de confiance entre les deux, car il fait partie de l'alliance dont nous avons parlé plus tôt. Frères et sœurs, nous pouvons revenir au tout début de ce message et examiner à nouveau ces statistiques. Le monde a une vision désastreuse du mariage, mais Dieu en fait un élément central de son plan. C'est un aspect essentiel du christianisme qu'il a créé lorsqu'il a créé les hommes. Prenez donc le temps. Si vous êtes marié, commencez à vivre chaque seconde que vous avez pour vivre ce mode de vie afin d'être prêt pour le mariage. Si vous êtes marié, dans l'Église, que votre conjoint soit dans l'Église ou non, concentrez-vous sur l'institution. Concentrez-vous sur ce que Dieu a établi et sur ce que cela signifie. Donnez la priorité à notre croissance pour nous aider et nous construire les uns les autres. Assumez, embrassez et remplir les rôles que Dieu a établis dans les mariages pour les maris et les femmes. Cultivez une communication ouverte et honnête. Démontrez-le en vous conduisant l'un envers l'autre. Si vous vous concentrez, si je me concentre, si nous nous concentrons tous sur ces principes, la société ne faussera pas notre vision du mariage. Nous construirons des mariages qui reflètent ce que Dieu attend de nous et nous pourrons alors, comme dans les bons mariages, faire partie du mariage ultime lorsque Christ épousera l'Église.